George Wells, Le cambriolage d'Hammer Pond Park. Faut-il considérer le cambriolage comme une profession, comme un sport ou comme un art? Sa technique est trop peu précise pour qu'il soit une profession, et ses prétentions à l'art sont gâtées par l'élément de cupidité qui mitige ses triomphes. En somme, il semble juste de le ranger au nombre des sports, d'en faire un sport pour lequel aucune règle n'a jamais jusqu'à présent été formulée, et dont les prix sont distribués d'une manière dénuée de tout apparat. C'est ce manque d'apparat qui mit brusquement la fin à la carrière de deux débutants pleins de promesses dans l'affaire d'Hammer Pond Park. L'enjeu dans cette affaire consistait surtout en diamants et autres bibelots appartenant à la jeune Lady Heveling. Le mariage de Miss Montague Spence avait été brillamment annoncé dans les journaux, qui avaient énuméré la quantité et décrit la qualité des cadeaux de la corbeille, en révélant que les jeunes mariés passeraient la lune de miel dans leur château d'Hammer Pond. La description de tant de prix alléchants avait provoqué une sensation considérable dans le petit cercle de sportsmen dont M. Teddy Watkins était le chef incontesté, et il fut décidé que l'habile homme, accompagné d'un assistant dûment qualifié, se rendrait au village d'Hammer Pond pour y exercer ses talents professionnels. De naturel réservé, M. Watkins résolut de faire cette visite incognito, et après avoir minutieusement examiné les conditions de l'entreprise, il adopta le rôle de peintre paysagiste et le modeste nom de Smith. Il partit le premier, son compagnon ne devait le rejoindre que dans la dernière soirée de son séjour. Avec ses toits de chaume et sa vieille église, au milieu des landes et des bois, le visage d'Hammer Pond est un des plus jolis de Sussex. Aussi, lorsque M. Watkins débarqua avec sa valise, deux toiles intactes, sa boîte et son chevalet, une ingénieuse petite échelle pliante, ses pinces Monseigneur et des rouleaux de fil de fer, fut-il accueilli avec effusion et cordialité par une demi-douzaine d'autres chevaliers du pinceau. « Avez-vous exposé souvent ?» lui demanda le jeune Pearson dans la grande salle d'hôtel du Coche où, dès le soir de son arrivée, M. Watkins accumulait de précieux renseignements sur la localité. « Oh, très peu, quelques croûtes ici et là, » répondit M. Watkins. « Au salon ? Deux fois. » Vous avez déjà travaillé en plein air? À l'occasion. Vous faites aussi le portrait? Quand ça en vaut la peine, mais je suis venu ici pour peindre le château au clair de lune. Vraiment? S'écria Parson. Voilà une idée qui n'est pas banale. N'est-ce pas? Oui, ça m'a paru intéressant et j'espère m'y mettre demain soir. Comment? Vous n'allez pas peindre en plein air la nuit? Pourquoi pas? Mais comment verrez-vous votre toile? Oh, j'ai de bons yeux, et puis j'emporterai ma lanterne spéciale. Mais c'est la nouvelle lune en ce moment, objecta Parson. S'il n'y a pas le clair de lune, il y aura toujours le château, répliqua Watkins. Je peindrai le château d'abord et je mettrai la lune après. Ah, fit Parson, trop décontenancé pour continuer la conversation. L'hôtelier, qui pendant cet entretien technique avait observé un silence respectueux, reprit son colloque avec M. Watkins. On prétend qu'il n'y a pas moins de trois agents de police qui montent la garde la nuit dans le château à cause des bijoux de la jeune Lady Eveling. Il y en a un qui est venu ici hier prendre un verre avec le second valet de pied. Au crépuscule, le lendemain, M. Watkins, chargé d'une toile, de son chevalet et d'une boîte aux dimensions respectables, contenant une infinité d'outils, cheminait par le joli sentier qui, à travers le bois de hêtre, mène à Flower Pond Park. Et il installa son matériel dans une position stratégique qui commandait le château. M. Raphaël Stant, qui revenait des fours à chaux, dont il avait fait quelques études, aperçut alors son confrère, Et sa curiosité ayant été éveillée pour ce que Paulson avait raconté du nouveau venu, il bifurqua dans cette direction avec l'idée de discuter de l'art nocturne. M. Watkins ne se doutait pas de cette visite. Une amicale conversation entre le maître d'hôtel du château et lui venait de se terminer, et le majestueux personnage, suivi des trois chiens favoris qu'il était dans ses fonctions de promener, s'éloignait vers le parc. Avec un air affairé, M. Watkins mélangeait les couleurs sur sa palette, et Stans, s'en approchant, fut stupéfait de constater que la nuance obtenue était un vert émeraude aussi criard et vif qu'il est possible de l'imaginer. À la vue de ce hardi mélange, il fit entendre entre ses dents un sifflement. M. Watkins tourna la tête visiblement ennuyé. « Que diable allez-vous faire avec un verre pareil ?» demanda Stant. M. Watkins comprit que le zèle qu'il déployait dans le but de donner le change au maître d'hôtel lui avait fait commettre quelques gaffes techniques. Il regarda Stant et hésita. « Excusez ma question, » reprit Stant, « mais ce verre est quelque peu ahurissant, et j'en suis resté éberlué. Qu'avez-vous l'intention de peindre avec cela ?» M. Watkins fit appel à toutes les ressources de ses facultés. Une attitude énergique pouvait seule sauver la situation. « Mais si vous continuez à rester là pour me gêner, c'est votre figure que je barbouillerai avec cela, » déclara-t-il rageur. Stan se retira car il était un homme paisible et qui avait le sens de l'humour. En descendant au village, il rencontra Paulson et Wainwright. « Ce type-là, dit-il en parlant du soi-disant Smith, ce type-là est un génie ou bien un fou dangereux. Allez donc voir un peu son verre. » Et il poursuivit sa route, tout réjoui par la perspective d'une joyeuse mêlée autour de chevalet avec la figure de ses amis badigeonnés de verre. Mais M. Watkins se montra beaucoup moins agressif envers Paulson et Wainwright. Il leur expliqua que son verre était destiné à former la première couche sur la toile. « Oui, avoua-t-il, c'est une méthode absolument nouvelle et de mon invention. » Mais après cette confidence, il manifesta plus de réserve, insinuant qu'il n'avait aucune intention de révéler son secret au premier venu, et il ajouta quelques remarques sarcastiques sur le compte de ces types patelins qui feignent de s'intéresser à ce que font les autres pour essayer de chiper leur procédé, sur quoi les deux peintres délivrèrent M. Watkins de leur présence. L'obscurité s'épaissit. Une à une, les étoiles parurent. Sur la pelouse, le chevalet était resté seul, et la pureté de la toile qu'il supportait était souillée d'un mot fort peu civil, tracé en gros caractères d'un vert éclatant. Mais dans un massif d'arbustes touffus, M. Watkins était à l'œuvre avec son aide qu'il avait discrètement rejoint par l'avenue carrossable. « Voilà le cabinet de toilette, » indiquait-il à son complice. « Et aussitôt la femme de chambre en sortira pour aller souper, c'est nous qui entrerons, sapristi. Il est tout même épatant le château, comme cela, dans la nuit, avec ses fenêtres éclairées. Ah, si j'étais peintre pour de bon. Dis donc, Jim, t'as bien tendu le fil de fer dans l'armée de la buanderie. » Avec mille précautions, il s'avança jusque sous la fenêtre du cabinet de toilette et commença à ajuster son échelle pliante. Pendant ce temps-là, Jim surveillait le fumoir. M. Watkins était un praticien beaucoup trop expérimenté pour éprouver la moindre émotion en procédant à ses préparatifs. Mais tout à coup, presque à côté de lui, il entendit un violent fracas suivi d'un juron étouffé. Quelqu'un avait trébuché dans le fil de fer. Il n'était pas précipité sur le gravier. Comme tous les artistes véritables, M. Watkins était un homme singulièrement timide. Il lâcha immédiatement son échelle et se mit à fuir avec circonspection à travers les massifs. Il perçut vaguement deux individus à ses trousses et crut distinguer devant lui la silhouette de son acolyte. L'instant d'après, il franchissait le petit mur de clôture du jardin et s'élançait dans le parc. Quelqu'un aussi sauta le mur derrière lui. Ce fut une course éperdue dans la nuit sous les arbres. M. Watkins, agile et bien entraîné, gagnait de vitesse le personnage haletant qui fuyait devant lui. Tous deux couraient en silence, mais sur le point de rattraper l'autre, M. Watkins fut pris d'un doute affreux. Au même moment, l'individu tourna la tête et poussa une exclamation de surprise. « Ah, ce n'est pas Jim !» pensa M. Watkins. À l'instant, l'autre se jetait aux genoux du peintre et les deux hommes roulèrent à terre, corps à corps. « Un coup de main, Bill !» appela l'inconnu en voyant survenir un troisième larron. Et Bill, incontinent, prêta la main. Les deux mêmes, et poussa la complaisance jusqu'à y joindre les pieds. Le quatrième fuyard, Jim vraisemblablement, avait dû filer par une direction différente. En tout cas, il ne rejoignit pas le trio. Le souvenir que M. Watkins a gardé des incidents qui occupèrent les deux minutes suivantes est extrêmement vague. Il se rappelle confusément avoir enfoncé son pouce dans le coin de la bouche de son premier adversaire et maintenu à terre par les cheveux pendant quelques secondes la tête de l'individu répondant au nom de Bill. Il reçut aussi, en un grand nombre d'endroits différents, des coups de pied administrés, lui sembla-t-il, par une multitude de gens. Puis l'individu, qui n'était pas Bill, appuya son genou au-dessous du diaphragme de M. Watkins, en le tirant par les épaules, comme s'il eût voulu le casser en deux. Quand ses sensations furent un peu moins embrouillées, il se retrouva assis sur l'herbe, avec 8 ou 10 personnes debout dans l'ombre autour de lui, qui attendaient apparemment qu'il eût recouvré ses esprits. Il supposa piteusement qu'il était capturé, et il aurait probablement émis quelques réflexions philosophiques sur l'inconstance de la fortune, si certains lancinements internes n'eussent réfréné ses dispositions oratoires. Mais il eut promptement remarqué que ses poignets étaient libres de menottes et qu'on lui tendait un flacon de cognac. Ce témoignage inattendu de bienveillance le toucha beaucoup. « Il reprend connaissance !» dit une voix qu'il crut reconnaître pour celle du second valet de pied du château. « Nous les tenons, monsieur, tous les deux, et grâce à vous !» déclara le maître d'hôtel qui lui présentait le flacon. Personne ne répondit, et cependant M. Watkins ne comprit pas que cette phrase s'adressait à lui. « Il est encore tout étourdi !» articula une voix inconnue. « Le malandrin l'a à moitié assommé !» M. Teddy Watkins décida de rester étourdi jusqu'à ce qu'il pût mieux saisir la situation. Il distingua, au milieu des silhouettes qui l'entouraient, deux formes humaines, debout, côte à côte, en une attitude morne et abattue. Et il y avait quelque chose dans la position de leurs épaules qui indiquait à l'œil expérimenté de M. Watkins que leurs bras étaient entravés. D'un seul coup, il comprit. Vidant d'un trait le flacon, il se leva en chancelant, aidé par quelques spectateurs compatissants, et salué d'un murmure sympathique. « Votre main, monsieur, votre main !» dit une des formes proches de lui. « Et permettez-moi de me présenter moi-même. Je vous suis extrêmement reconnaissant. Ce sont les bijoux de ma femme, Lady Aveling, qui ont tenté ces deux malfaiteurs. » Enchanté de faire votre connaissance, my lord, bredouilla Teddy Watkins. Vous avez sans doute aperçu ces coquins qui se glissaient dans les massifs, et vous leur êtes tombé dessus. Oui, c'est à peu près comme cela que c'est passé, approuva M. Watkins. Mais vous auriez dû attendre jusqu'à ce qu'ils eussent pénétré par la fenêtre, continua le lord Laveling. « Si l'effraction avait été commise, leur affaire eût été plus grave. »« Vous avez eu de la chance que deux des agents fussent auprès de la grille et se soient lancés sur vos traces. Vous n'auriez certainement pas pu, à tout seul, les arrêter tous les deux. Quoi qu'il en soit, vous avez agi là avec une rare courage. Oui, j'aurais dû penser à tout cela, convint M. Watkins, mais on ne saurait songer à tout. Assurément non, conclut Lord Avening. Ces bandits vous ont honteusement malmené. Vous paraissez boiteux. Puis-je vous offrir mon bras ? Et la petite troupe se mit en marche vers le château, et au lieu d'y pénétrer par la fenêtre d'un cabinet de toilette, M. Watkins y entra par la porte d'honneur et au bras d'un lord en chair et en os. « Voilà, se disait-il légèrement ému et enclin de nouveau à la belle humeur, voilà ce qui s'appelle cambrioler en grand style !» Les bandits, examinés à la clarté du lustre, furent identifiés comme des amateurs locaux, inconnus de M. Watkins. On les amena à l'office où ils furent gardés à vue par les trois agents de police, deux gardes-chasse avec leurs fusils chargés, le majordome, un palefrenier et un charretier, en attendant que le jour rendît possible leur transfert à la prison d'Hazelhurst. Au salon, chacun se dépassait en mille petits soins pour M. Watkins. Il fut étendu sur un sofa et on ne voulut pas entendre parler de son retour au village ce soir-là. Lady Evelyn proclamait qu'il avait l'air tout à fait original et avoua que c'était fait de Turner une image à peu près semblable. Quelqu'un apporta une curieuse petite échelle pliante qu'on avait ramassée dans un massif et on expliqua au courageux artiste comment l'outil se manœuvrait. On décrivit longuement de quelle façon les fils de fer avaient été tendus au travers des allées, dans le but évident de faire culbuter quelconque se serait risqué à poursuivre les malfrateurs, et on le complimenta d'avoir échappé à ses pièges. Enfin, on lui montra les joyaux de la corbeille. M. Watkins eut le tact de ne pas parler outre mesure, et chaque fois que la conversation présentait pour lui quelques difficultés, il se rejetait sur ses douleurs internes. Bientôt, il sentit un désagréable lumbago le saisir et il se prit à bâiller. À point nommé, tout le monde fut d'avis qu'il était cruel de fatiguer ainsi ce malheureux après une pareille secousse. Aussi lui permit-on de se retirer de bonne heure. Dans sa chambre, la petite chambre rouge contiguë à l'appartement de Lord Aveling, le soleil levant trouva dans le parc d'Hammerpond un chevalet abandonné avec une toile portant une inconvenante inscription peinte en vert, et le château en grand remue-ménage. Mais si ce soleil retrouva les traces de M. Teddy Watkins et les diamants de Lady Evelyn, il n'a pas encore communiqué le renseignement à la police.